Historiquement vôtre, c'est aussi, vous le savez, l'histoire de votre quotidien et de votre quotidien gastronomique. Chaque jour, avec Olivier Pouls, on découvre l'histoire qui se cache derrière nos petits plats préférés. Vous savez, ceux qu'on se cuisine tous les soirs, comme ça, au débeauté.
Des filets de sole à la vénitienne, oui. Du homard à la parisienne, oui. Du pâté chaud de caille, oui. De l'escalope de turbo au gratin.
Oui. Bah, quand on a quelqu'un pour faire la cuisine, sinon c'est pas ça qu'on prépare. Olivier Pouls, aujourd'hui, vous nous parlez d'un produit que Stéphane et moi adorons.
Ah, on peut le dire. Enfin.
Mais qu'il ne faut pas consommer, disons, lors d'un premier rendez-vous.
Non, pas forcément, sauf si la personne en face a consommé la même chose. C'est comme l'ail, hein, voilà, c'est le genre de produit qu'on évite dans certaines circonstances. Mais pourtant, Dieu sait que c'est bon. Le Roquefort, c'est quand même l'un des meilleurs fromages, en tout cas l'un de ceux qui a le plus de caractère. Et c'est un vrai emblème de notre savoir-faire fromager français, puisque c'est ce qu'on appelle un fromage au lait cru. Vous savez qu'il y a une grande bagarre aujourd'hui pour savoir s'il faut pasteuriser ou non les fromages. L'industrie versus les vrais producteurs. Et on peut dire que du côté de Roquefort...
C'est du brebis.
C'est du brebis, évidemment.
Il faut le dire.
Voilà, c'est une pâte persillée de brebis au lait cru. Et on sait se battre et on s'est battu pour conserver ce vrai savoir-faire qui est vraiment localisé sur une toute petite zone. Mais pour revenir à l'histoire de ce fromage dont on parle sous le nom de Roquefort depuis le XIe siècle, il y a une petite légende que j'ai envie de vous raconter parce que je la trouve vraiment très très sympathique. Puis ça vous donnera un petit truc à raconter ce soir à vos amis quand vous servirez le plateau de fromage.
Donc maintenant on dîne à 6h.
Ouais. Le Roquefort serait peut-être né un peu par hasard, justement dans une grotte sur le rocher de Cambalou. Nous sommes évidemment dans l'Aveyron. Et il y a un jeune berger qui est là et qui tout à coup voit passer une jeune fille qu'il trouve fort délicieuse, fort à son goût, et il décide de la suivre. Et il part un peu dans la précipitation et il laisse dans la grotte dans laquelle il s'était installé son petit baluchon avec ses provisions. Et il part un jour, deux jours, trois jours.
Pas très bien ce qu'il fait. Il a suivi super longtemps.
Ouais, il est un peu obsédé. Je pense que le mec, ça nous relie un peu avec nos obsédés sexuels du jour. Le gars, il a probablement un petit problème. Quoi, parce que suivre la fille trois jours. Alors, l'histoire ne raconte pas s'il réussit à la pécho ou pas. Enfin bref, il revient sur sa zone. Puis évidemment, il a faim. Ça creuse toute cette histoire.
Trois jours.
Il ouvre son baluchon qui était composé de fromage de brebis.
Il n'y a rien qui tient debout dans cette histoire.
Qui était composé de fromage de brebis frais, à l'époque on le mangeait comme ça, et puis d'un morceau de pain. Et à cause de l'humidité de la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Le fromage, il a moisi.
Il s'est dans une grotte
il s'était mis à l'abri, qu'est-ce que vous voulez? C'est confortable,
une grotte. D'accord, j'essaie de...
Et il se dit, mais j'ai rien à manger, je vais quand même le goûter. Et paf, il goûte ce fromage qui a pourri.
Et c'est le même gars qui a vu des escargots qui a dit, tiens, je vais les goûter.
Peut-être. Et il adore ça. Et ben voilà, comme quoi, finalement, avec un petit peu de pulsions sexuelles, on peut créer
un
grand
fromage. Ou alors,
avec
du marketing de chez Publicis, c'est dit, attends, le truc, il est bleu, comment on pourrait inventer une histoire cool sur l'origine?
Ouais, mais écoutez, moi, j'ai envie d'y croire parce que j'aime bien ces histoires. Alors, c'est vrai que depuis, le fromage est devenu, je le disais, un des grands emblèmes de notre gastronomie. Il est issu d'une race de brebis très particulière, la brebis Lacaune. Il est réalisé dans des conditions là aussi très particulières. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on peut appeler le terroir, c'est-à-dire la relation entre un lieu et un savoir-faire. Il y a un seul lieu de fabrication, hein, c'est le village de Roquefort avec ses caves absolument magnifiques qu'on peut visiter en temps normal quand tout va bien, et qui sont une alchimie très particulière de température, d'hygrométrie, de ventilation, qui fait que dans cet endroit-là, plus qu'ailleurs, se développe ce qu'on appelle le Penicillium Roqueforti. Donc une pourriture comestible qui va donner le goût particulier à ce Roquefort après 4 à 5 mois d'affinage. Et c'est un fromage qu'on peut manger évidemment tout simplement comme ça, mais qu'on peut aussi cuisiner. Et je vous donne une petite recette assez rapide et assez efficace, que vous pourrez faire ce soir d'ailleurs, d'une crème d'endive au Roquefort.
Oh, oui, c'est bien ça.
L'endive et le Roquefort se marient bien, tout simplement en salade. Mais là, l'idée, c'est de faire une crème d'endive. Donc c'est de cuire les endives tout simplement dans une poêle à couvert. Quand elles sont bien cuites, on va prendre 8 endives pour 4 personnes, on va rajouter 75 centilitres de bouillon de volaille, un petit peu de crème, sel, poivre, on mixe le tout, et à côté, on fait revenir des petits lardons, et on coupe des morceaux de roquefort en petits cubes, et on vient juste poser les lardons grillés et les dés de roquefort dans cette crème d'endives. L'association des trois, c'est un peu comme des endives au jambon, un peu lointaine, j'aime pas le terme revisité, mais en tout cas très largement réinterprété. Je vous garantis que c'est assez surprenant. Et l'association, ce crémeux du roquefort, le petit goût de particulier qu'il a et l'endive, c'est un très très beau mariage.
Comme
quoi vive ce petit berger obsédé sexuel.
Tout part toujours d'un obsédé sexuel dans l'histoire, j'ai l'impression quand même. C'est les obsédés sexuels qui font avancer le monde.
Bien sûr.
Absolument.
Vous mais en savez pas. Quelque chose, Mathieu.
Mais pourquoi toujours des attaques ad hominem, soi-disant je conduis une Lamborghini, je ne connaissais même pas cette marque. Enfin, c'est des choses vraiment folles. Merci Olivier, on retrouve...
La vie sur Terre a commencé par un coup de rein. Hein.
Ah. Oui, c'est vrai, je crois que c'est qu'on
n'est pas là. Pardon de le rappeler prosaïquement. Merci beaucoup Olivier Pouls.
Et on retrouve toutes vos recettes, où ça?
En podcast et puis
sur le site d'Europe1.fr.